Alphonse Karr, une visite à l'arsenal. Dans un vaste atelier sont deux jeunes gens. L'un est devant un chevalet et profite des dernières lueurs du jour. L'autre, étendu sur un vaste divan rouge, fume nonchalamment une longue pipe et retourne dans ses mains une lettre encore non décachetée. Tous deux portent des cheveux longs et des moustaches. Demain, peut-être, ils auront la tête et les mentons rasés, et après-demain, ils laisseront repousser la barbe sous la lèvre inférieure. Ben, je ne sais pourquoi, dit le fumeur, j'hésite à envelopper cette lettre dans le sort auquel je condamne les autres depuis 2 mois. J'ai quelques regrets de la brûler sans la lire, d'autant plus que c'est l'écriture de mon père. Oh, je devine à peu près le contenu des deux missives qu'il m'a adressées précédemment. La première contenait nécessairement des reproches et des menaces. La seconde, probablement, des reproches et des conseils. Il n'est pas impossible que je trouve dans celle-ci un bon sur la poste. Parbleu, ajouta-t-il après avoir parcouru les premières lignes. Mais t'es pas trompé! Mon correspondant est chargé de me remettre 100 francs. 100 francs? S'écria l'autre en posant sa brosse. Oui, 100 francs, répondit le fumeur. Ah ben allons, les pères valent mieux que leur réputation. Pour moi, je n'aurai mon pain quotidien que lorsque je pourrai dire notre Père qui es aux cieux. En attendant, il me fait une recommandation très importante. Mon oncle de l'Arsenal est malade, il me presse de l'aller voir. C'est un oncle à héritage, et je n'y suis allé qu'une seule fois depuis 3 ans. Tu as tort, mais il n'est pas difficile d'être sage pour les autres. Je tâcherai d'y aller demain, mais je ne sais pas trop le chemin. Je te ferai une carte. Bon, voilà qui est bien. Le lendemain arrive. Je ne partirai pas sans déjeuner. Alors, je ne te le conseille pas. Mais qui ira chercher le déjeuner? Non, pas moi, je suis en pantoufles. Oh, dis-moi, je ne veux pas salir mes bottes avant de me mettre en route. Eugène, tu n'es guère complaisant. Et toi, tu n'es guère juste. C'est moi qui ai fait hier toutes les corvées. Aujourd'hui, c'est à ton tour. Bah, écoute, prenons les fleurets. Le premier touché ira chercher le déjeuner. On prend les fleurets, on tire. Arthur est touché. Il est convenu que c'est lui qui ira chercher le déjeuner. Mais puisqu'on a tant fait que de décrocher les fleurets, les masques et les gants, on ne s'arrêtera pas à une première botte. On tire pendant 1 heure. Et on s'arrête essoufflé, exténué. Il faut faire chauffer de l'eau pour ma barbe. Oui, t'as laissé éteindre le feu. Bon, il sera bientôt rallumé, mais nous n'avons pas d'eau. Comment, la fontaine est déjà vide? Oui, j'ai oublié de refermer le robinet hier au soir. Mais la cuisine doit être inondée. La chose est trop vraie. Je suis bien heureux de m'en être aperçu avant de descendre. Allez, on déjeune et on met de l'eau au feu. Pendant qu'elle chauffe, Eugène s'est remis à son tableau, Arthur a repris sa pipe et s'est étendu sur le divan. Regarde, Eugène, combien j'ai perdu de temps aujourd'hui. Je devrais déjà être loin. Oh, c'est décidément une mauvaise chose que la flânerie. On ne saurait croire combien la mienne m'a déjà fait tort. Un philosophe a eu bien raison de dire, faites ce que vous voudriez avoir fait, plutôt que ce que vous voudriez faire. Mais cela est d'autant plus juste à ton égard, dit Eugène en prenant une pipe et en s'asseyant près de son camarade, que ce que tu voudrais faire surtout, ce serait ne rien faire. Ben, il est vrai que je méprise cette inquiétude qui fait que certaines gens agissent pour agir. Faites quelque chose qui vaille mieux que le repos, ou tenez-vous quoi? Allez, en ce moment, il vaudrait mieux t'habiller que de te tenir quoi? Non, non, n'est pas chaude. Les deux amis lâchèrent quelques bouffées de fumée, puis Arthur reprit. Oh, ce n'est pas que je veuille défendre la flânerie, car l'exorde de mon discours était, si t'en souviens, tout à fait contre elle. Bon, j'en dirai pas non plus de mal, car la paresse est un don qui vient des immortels. Les deux amis avaient dans la tête une certaine quantité de citations qu'ils arrangeaient de manière d'aphorisme selon le besoin qu'ils en pouvaient avoir. Mais, ajouta-t-il, il faut, pour que la flânerie soit douce, qu'elle soit aussi sans crainte et sans remords, sans peur et sans reproche. Il faut avoir conquis le droit de s'y livrer corps et âme. Car ce n'est pas la flânerie véritable, la flânerie pure et entière, que celle à laquelle s'abandonne le corps, tandis que l'esprit le gourmande. Il se leva et commença sa toilette. Pour une visite aussi peu fréquente et aussi importante que celle qu'il avait à faire, il crut devoir laisser de côté la cravate noire qu'il n'avait pas quittée depuis plusieurs années. Il en plia donc une blanche et la mit toute disposée sur le dos d'un fauteuil. Mais lorsqu'il se fut lavé les mains, il les essuya tranquillement après sa cravate, ne songeant pas que ce morceau de linge blanc pût être autre chose qu'une serviette. Quand il s'en aperçut, il était trop tard. La cravate était entièrement fripée et sale. Il en fallut chercher une autre. Alors il s'assit pour la plier sur ses genoux. Mais il était si bien sur le divan. Il reprit sa pipe et se mit à fumer. Sa tête reposait mollement sur les coussins. État d'inertie qui laisse voltiger autour de la tête des pensées légères, bizarres, que le moindre souffle dissipe ou métamorphose comme les nuées de fumée, et lâche la bride à l'imagination qui vagabonde, laisse là le corps engourdi, sans force pour la suivre ni la retenir, tel que l'oiseau qui, échappé de sa cage, voltige alentour et semble narguer l'oiseleur stupéfait de sa fuite. État délicieux où le moi disparaît, où l'on assiste à sa propre vie, à ses sensations, à ses joies, à ses douleurs, comme à un spectacle, avec cette douce paresse d'un spectateur bien assis, où on ne peut creuser une pensée triste sans que, malgré vos efforts pour la retenir, elle vous échappe, comme l'eau entre les doigts, et se transforme en une figure bouffonne qui, dansant dans la fumée du tabac, vous rit au nez et vous force à rire. Cependant, Arthur part. Sur l'escalier, un homme l'arrête. Monsieur Arthur, est-il chez lui? Non, il est mort. L'homme redescend devant lui, tout étourdi. Allons, je suis bien heureux que ce gaillard-là ne me connaisse pas. Il se met en route le long des boulevards. Bon, il y a bien des choses à voir sur les boulevards. Au mois de mars, les marchands de fleurs ont sur les étalages les premières jacinthes qui répandent une odeur de printemps. Les femmes, aux premiers rayons du soleil, sortent de leur fourrure comme les premières fleurs de leur calice vert. Il s'arrête à un escamoteur. L'escamoteur commence un tour plus surprenant que tous les autres, mais il ne le finit pas. Il en a d'autres à montrer auparavant, puis il donne pour rien un pain blanc d'Espagne pour nettoyer les chandeliers à ceux qui voudront bien payer 20 sous une boîte de charbon pour les dents. Ce spécifique odontalgique et balsamique est souverain contre la carie des dents. J'offre de faire une expérience publique. La première personne venue, viens ici, simple gamin. Tenez, les dents de cet enfant sont d'un noir parfait. Vous mettez sur la brosse un peu de poudre, vous l'humectez avec de l'eau, et ne croyez pas que ce soit de l'eau préparée, non, l'eau la première venue, l'eau du ruisseau. Vous frottez les dents et les gencives. Cependant, le tour tant annoncé ne se fait pas. Arthur, qui l'a attendu pendant une demi-heure, perd patience et s'en va. Mais l'escamoteur court après lui et l'appelle. « Monsieur, monsieur !» Tous les yeux sont fixés sur Arthur. Il rougit et s'arrête. « Monsieur, dit l'escamoteur, pourquoi ne m'emportez-vous mes malles ? Je n'ai pour vivre que les instruments de mon métier. » Tout le monde entoure Arthur, qui, bleu de colère, s'écrie « Mais je n'ai pas vos balles, allez-vous promener ?»« Mais je demande mille pardons à monsieur, mais il a mes balles dans son chapeau. » L'escamoteur en retire trois énormes balles. Le tour se fait adroitement, tout le monde admire. Arthur a envie de battre l'escamoteur et s'enfuit. Les incrédules sourient et disent « C'est un compère !» Plus loin est un marchand de briquets phosphoriques. « Ceci est la véritable pâte inflammable. Vous n'avez point besoin d'allumettes préparées. Vous prenez gros comme rien du tout de ma pâte au bout d'un couteau, au bout de votre canne, au bout de ce que vous voudrez, de n'importe quoi. Le moindre frottement contre une mèche l'allume aussitôt. » Outre l'utilité de ma pâte inflammable, c'est une source d'amusement honnête et récréatif, histoire de rire et de s'amuser en société. Vous êtes dans le monde, chez un ministre, un maladroit veut moucher la chandelle et l'éteint. Obscurité complète. Chacun dit la sienne. On profite de la nuit pour embrasser sa voisine, mais vous... Vous tirez votre briquet, que vous avez toujours sur vous. Vous pariez un litre, rouge ou blanc, avec la maîtresse de la maison, que vous rallumerez la chandelle. Arthur continue sa route. Un homme l'arrête par le collet de son habit. Cet homme a devant lui un chat-huant et trois innocentes couleuvres, serpents féroces qu'il a, dit-il, apprivoisés. Plusieurs oiseaux, roides et étendus sur le dos, sont instruits à simuler la mort. S'il vous permettait de les toucher, vous verriez que la chose ne leur est que trop facile. Cet homme vend du savon à détacher. En vain, Arthur veut s'échapper. Son ennemi ne lâche pas prise. La foule s'amasse autour d'eux. Il est impossible d'avoir une tâche plus dégoûtante que celle qui dépare le collet de l'elbeuf de monsieur. Arthur donne un coup de poing dans l'estomac du dégraisseur et le fait tomber avec sa table sur les oiseaux et les reptiles, morts ou vivants, puis il s'enfuit. Et pour dérouter les regards, il quitte les boulevards et prend au hasard une rue qu'il ne connaît pas. Elle le conduit dans une autre qui donne dans une autre. Arthur est perdu. Il erre, il tourne. Enfin, il demande à un commissionnaire où il se trouve. Il a fait la moitié du chemin pour retourner chez lui. « Bof, c'est l'heure du dîner de mon oncle, je vais rentrer. Je n'irai pas aujourd'hui. » Le lendemain, Arthur se leva de grand matin. Il avait perdu un temps prodigieux la veille à faire chauffer de l'eau pour sa barbe. Aujourd'hui, il se rasera à l'eau froide. Il est vêtu de deux pantoufles, l'une à lui, l'autre à Eugène, une jaune, l'autre rouge, un vieux pantalon noir taché de couleur et une chemise de nuit complètent le costume. Le savon est lent à se dissoudre dans l'eau froide. Il devient gluant et glissant, et jaillit, de la main serrée pour le retenir, comme un noyau de cerise entre les doigts. Arthur se baisse et met la main dessus. Le savon glisse dans la main et disparaît sous le divan. Arthur se baisse, il prend une canne et frappe le divan. La canne rencontre le savon et le chasse violemment. La porte est ouverte, le savon sort. Arthur le poursuit, mais il passe à travers la rampe et, toujours glissant, descend d'étage en étage. Et deux fois Arthur le rattrape et veut le saisir avec le pied, mais il s'élance de plus belle. Arthur descend aussi vite qu'on peut descendre en pantoufles Il passe à côté d'une femme et d'un enfant et manque de les renverser. Il déchire entièrement une manche de sa chemise après un porte-manteau pour battre les habits. Le savon s'est arrêté dans la cour. Arthur va le saisir. Une servante qui l'avait à la pompe vide son baquet et le ruisseau grossi entraîne le savon par-dessous la porte cochère. « Cordon, s'il vous plaît !» Arthur sort et prend son savon entre les jambes d'un cheval. Mais on s'arrête dans la rue pour le regarder. Il s'empresse de rentrer. À chaque étage, il rencontre des voisins sortis pour chercher la cause du bruit qu'il faisait en descendant. Les uns rient, les autres haussent les épaules. Arrivé en haut, l'atelier est fermé. Il va frapper. Il entend un enfant qui pleure et une femme qui gronde. « Tiens-toi tranquille, dans une heure, tout sera fini et nous nous en irons. » « Oh, mon Dieu, c'est un affreux petit enfant dont Eugène fait le portrait. Oh, je ne puis me présenter ainsi, que faire? Une heure avec une chemise incomplète par le temps qu'il fait. Oh, si j'avais une pipe seulement !» Arthur bat la semelle, marche en long et en large. Quand il a épuisé ses plaisirs peu variés, il sort par une lucarne, grimpe sur le toit, et va se chauffer à la fumée d'une cheminée voisine. L'heure se passe longuement, mais il n'est plus temps d'aller chez l'oncle. Ah, encore une journée de perdue. La nuit, Arthur dort à peine pour se réveiller plus sûrement de bonne heure. Il songe aux raisons qu'il donnera à son oncle pour n'être pas allé le voir depuis si longtemps. Le matin, il se réveille. Le jour pénètre dans la chambre sombre et pluvieux. Oh, alors, il pleut, je ne sortirai pas. Quand on se trouve bien au lit, le moindre prétexte paraît suffisant pour y rester. Cependant, Arthur se trompe, il ne pleut pas. Un rideau bleu étendu par Eugène devant la fenêtre causa son erreur. Il n'y a rien de si triste et si trompeur que la lumière passant à travers un rideau bleu. Il ne faut pas avoir de rideau bleu. Il ne pleut pas, bien au contraire. Quand Arthur se lève, il est tard. Le soleil commence à prendre de la force. Ses rayons colorent les toits qui semblent le salir. De la terrasse qui est devant l'atelier, on voit quelques toises du ciel, mais on le voit bleu, transparent. On respire un air attiédi et pénétrant. Dans les villes, c'est tout ce qu'on sait du printemps. Les plus belles fêtes de la nature ne sont, pour le citadin, que ce que serait l'harmonie lointaine d'un bal pour le pauvre qui meurt de froid à la porte de l'hôtel. Mais c'est assez pour faire penser que la forêt doit commencer à feuiller, que les hêtres, les érables verdissent, les premiers avec l'aube épine. Les cerisiers doivent déjà balancer leur riche panache de fleurs blanches. Les oiseaux d'hiver ont cessé leurs chants secs et aigus, et la fauvette, dans le jeune feuillage des lilas, fait entendre la première sa voix pleine et vibrante. Sur le bord des rivières doivent fleurir les chatons jaunissants des saules, autour desquels bourdonnent les premières abeilles. Arthur dit à Eugène, « Il faudrait cependant nous occuper de notre jardin. » Leur jardin se compose de trois longues caisses placées sur la terrasse. « Que mettrons-nous cette année dans notre jardin ?»« Oh, pour moi, je ne veux plus de légumes. Ta salade de l'été passé était détestable. D'ailleurs, il fait un peu d'ombrage. » « Veux-tu donc des arbres de haute futaie et des taillis ? Oh, ben, ce serait pas si mal. Alors pourquoi n'y mettrait-on pas des sapins ? Ce serait une chose superbe. » « Non, mais sans plaisanterie. Nous nous mettrons assez haut, ce me semble, pour que personne ne s'avise de nous contester le droit d'avoir ici quelques cèdres. Le cèdre est ami des montagnes. Moi, je veux des fleurs, je mettrai des œillets et des roses rouges que René d'Anjou fit voir le premier dans ses jardins. Oui, mais il est aussi le premier qui ait cultivé le raisin muscat. Oh, si tu m'en crois, nous n'aurons pas plus de vignes que de forêts. Bon, comme tu voudras. Sais-tu que c'est une gloire comme une autre que d'avoir attaché son souvenir à une fleur? Eugène est seul dans l'atelier, seul avec un modèle qui ne parle ni ne bouge. Arthur est parti de bonne heure. Tout porte à espérer que cette fois, il arrivera à l'arsenal. Eugène cause tout seul. Tout en peignant, il se donne à lui-même des avis, il se fait des reproches, il s'accorde quelques éloges, il imite les paroles et la voix du maître sous lequel il a étudié, il entremêle ce monologue de réflexion morale. N'abusez pas du bitume. Mais pourquoi peignez-vous sans appui-main? Oh, diable sont mes appuis-mains! Je ne trouverai jamais de mes appuis-mains. Il faudrait avoir un rapin pour me donner de mes appuis-mains. Or, on n'est jamais si mal servi que par soi-même. Ah, vous appelez cela un appui-main? Mais pourquoi ne prenez-vous pas un essieu de voiture? Voilà une bougie allumée. C'est bien, mais qu'est-ce qu'éclaire votre bougie? Mettez donc des lumières, vous n'osez pas, vous avez peur. Là, là, encore un peu. Ah, maintenant votre bougie est claire. N'abusez pas du bitume, un peu de cinabre. Bon, ben allons, où est mon cinabre? Oh, qu'est-ce qui a pris mon cinabre? Dites-moi, Georges, dit-il au modèle, est-ce vous qui avez mangé mon cinabre? Il faut absolument du cinabre, il m'en faut. Voici bien du verre, mais c'est pas la même chose. Si j'avais un rapin, il me chercherait mon cinabre. Oh, il faudra décidément que j'ai un rapin. L'économie est la mère de tous les vices. Ah, voici mon cinabre. Mais qui diable s'est avisé de le mettre dans un casque? On dérange tout ici, on met tout en désordre, mais qui diable s'est avisé de mettre mon cinabre dans un casque? Allez donc le chercher dans un casque. Je sais fort bien que je l'avais mis dans une botte à l'écuyère. Allons, se dit-il toujours à lui-même. Vous prenez peut-être cela pour un œil. Si vous regardiez le modèle, vous ne feriez pas de semblable bévue. Qu'est-ce que ce grand œil hébété? Abaissez donc la prunelle, là encore un peu. Puis il chante. Que la peinture est difficile, je ne serai jamais qu'un crouton. Mais si tout votre tableau ressemble à cette jambe, il faut vous rendre justice. Ce sera le plus mauvais du salon et vous ne ferez pas mal de mettre en bas épicier et pinxit. N'abusez pas du bitume. Allons, Georges, vous allez vous reposer. Moi, je vais sortir. Je reviendrai dans une heure et demie. Si l'on vient me demander, dites, je suis allé découvrir les sources du Niger. Eugène sort. Un commissionnaire monte quelques instants après. Il demande Eugène. Georges, qui fume du tabac du Levant dans une pipe turque, le renvoie avec sa lettre. Cette lettre est d'Arthur. Voici ce qui lui est arrivé. Il est sorti, comme nous l'avons dit, de fort bonne heure. Il a eu faim et est entré dans un café, et au moment de sortir, il s'est aperçu qu'il n'avait pas d'argent. Il s'est fait servir quelque chose et a écrit à Eugène de chercher sa bourse et de la lui envoyer. Le commissionnaire revient avec la lettre. Mais comment payer ce qu'il a bu et mangé au café? On ne peut sortir du café sans solder sa dépense. On ne peut renvoyer le commissionnaire sans le récompenser. Il faut garder le commissionnaire et rester au café. Il envoie le commissionnaire chez un ami et demande un cinquième verre d'eau sucrée. Mais si le commissionnaire ne trouve pas Robert, que vais-je faire? Il faut payer cet homme, il faut payer ma dépense ici. Oh, c'est très embarrassant. Une femme passe devant le café. Arthur se précipite à la porte, le chapeau à la main. Cette femme qu'il vient d'apercevoir le préoccupe étrangement. Voici pourquoi. Sortant un jour de la boutique d'un marchand de bric-à-brac, chargé de deux figures de plâtre, d'un casque antique et d'un parasol chinois, Arthur s'était, dans la rue, trouvé en face d'une femme dont la beauté l'avait frappé. Les impressions subites ne sont pas une chimère. D'un coup d'œil, Arthur fut amoureux, malheureux, jaloux. Les plâtres lui échappèrent quasiment des bras. Il voulut suivre l'inconnu, mais, chargé comme un portefeuille, sale de poussière et de plâtre, il avait été forcé d'abandonner ce projet au cinquième pas. Il resta triste et rêveur pendant 3 jours. Une chose l'affligeait surtout. Il devait avoir produit sur l'esprit de cette femme une impression toute contraire à celle qu'il avait reçue d'elle. Son accoutrement était ridicule, son admiration stupide. Pendant 15 jours, il ne sortit plus qu'en grande toilette. Si l'on jouait une pièce nouvelle, il allait au théâtre. Si un rayon de soleil se glissait à travers les nuées grises de novembre, il allait se promener aux Tuileries, cherchant sous tous les chapeaux les yeux bleus de son inconnue. Il voulait réparer l'impression défavorable qu'il pensait avoir produite et s'élever au moins vis-à-vis d'elle au niveau des indifférents et des gens qu'elle n'avait jamais vus. À 2 mois de là, il l'avait une seconde fois aperçue dans un théâtre. Mais elle était fort éloignée de lui et, quoi qu'il pût faire, il n'avait pas réussi à attirer son attention sur sa personne qui, ce jour-là, était tout à fait coquette et bien arrangée. En rentrant, il avait fait son portrait de mémoire et la vue continuelle de cette image n'avait pas peu contribué à entretenir dans son esprit une passion passablement extravagante. Depuis, il ne l'avait jamais rencontré, quelque recherche qu'il eût faite. Quelquefois, il avait suivi des heures entières des femmes inconnues, sous prétexte qu'elles avaient dans la taille, dans la tournure, quelque rapport avec sa bien-aimée ou qu'elles portaient un châle bleu. Les 2 seules fois qu'il l'avait aperçue, elle était enveloppée d'un grand cachemire de cette couleur. Du reste, il faisait fort assidûment la cour au portrait, et il plaçait devant lui de beaux bouquets chaque fois qu'il rentrait. La cherchant toujours et ne la voyant jamais, il était arrivé à un point d'adoration tel que, s'il l'eût rencontrée par hasard et qu'il eût réussi à se faire aimer d'elle, lui ne l'aurait pas aimée longtemps. Il avait juché son idole sur un piédestal si élevé qu'elle aurait pu descendre sans se briser. Avec de l'imagination et des obstacles, on peut toujours adorer une femme. Il n'est pas aussi facile de l'aimer. On adore la plupart des femmes que faute de les pouvoir aimer. Non que nous prétendions dire du mal, des illusions, loin de là. Nous avons souvent pensé qu'il n'y a de beau dans la vie que ce qui n'y est pas, c'est-à-dire que la vie nue, dépouillée des riches couleurs que lui prête le prisme de l'imagination, ne vaut guère la peine qu'on la vive et ressemble à un papillon dont les ailes, froissées par une main maladroite, ont perdu leur brillante poussière écailleuse. Tuer les illusions, c'est borner le monde à notre horizon. C'est rétrécir le cercle de nos sensations à la largeur de nos bras étendus. C'est, à l'exemple de l'effort spartiate, couper 2 cordes de la lyre. C'est, comme le tyran de Syracuse, jeter à la mer sa plus belle bague. C'est se mutiler comme Origène. Ainsi, en reconnaissant sous un chapeau noir et à travers un voile de la même couleur les grands yeux bleus de l'inconnu, Arthur s'était précipité à la porte du café. Mais au moment de la franchir, il se rappela tout à coup qu'il n'avait pas payé, ne pouvait payer ce qu'il avait pris, et qu'en le voyant sortir, surtout d'un pas rapide, on ne manquerait pas de le prendre pour un voleur qui avait voulu déjeuner aux dépens du limonadier. Il retourna à sa place, demanda un sixième verre d'eau sucrée et fit semblant de lire un journal. Enfin, un homme entra en riant dans le café. C'était l'ami auquel Arthur avait écrit de venir le tirer d'embarras. Il lui offrit sa bourse, Arthur paya le commissionnaire et ses innombrables verres d'eau sucrée. Mon cher ami, dit le nouvel arrivé, puisque je paye ton déjeuner, permets-moi de subvenir également à ta nourriture du reste du jour et viens souper avec nous. Des circonstances amenées par la rencontre de cet ami, un amour qui amena un voyage qui amena une brouille qui amena un retour, tout cela prit bien du temps. Après ce temps, en route, Arthur songe à son inconnu et, rentré à son atelier, remplace par un bouquet de bruyères roses et de genêts dorés le bouquet depuis longtemps flétri qui décorait son portrait. Parbleu, dit Arthur, mais il faut que j'aille chez mon oncle. Arthur rentre au moment où Eugène allait dîner seul. Eh bien, as-tu vu ton oncle? Non. Comment cela? Ben, le boulevard m'a encore été une fois funeste. Je me suis arrêté à voir une géante. Polonaise lors de la guerre de Pologne, belge pendant le siège d'Anvers. Et voici ce que j'ai lu sur l'affiche. Le roi, ayant appris ce qu'on disait de sa merveilleuse beauté, l'a voulu voir et a déclaré que c'était à juste titre qu'on la surnommait la reine des géantes. Alors, fort du suffrage du roi, je suis entré et j'ai eu l'honneur d'être distingué par la reine des géantes. Ah, devant tout le public rassemblé, elle m'a dit: Si monsieur, qui est d'une riche taille, veut bien se placer à côté de moi, on verra qu'il ne me va pas à l'épaule. Oh, je me suis gravement juché sur son estrade et je suis resté près d'elle aussi longtemps qu'elle l'a jugé convenable. Ah, dit-il en soupirant. J'ai vu quelque chose qui m'a plus intéressé que tout cela. J'étais arrêté près d'un escamoteur. Il avait besoin d'une montre pour une métamorphose. J'avais prêté la mienne et je t'assure que le tour est très drôle, mais comme je le regardais opérer, une femme enveloppée d'un cachemire bleu vint à passer. Cette femme, c'était mon inconnue. Alors je veux la suivre, elle marchait sur le boulevard, précisément dans le sens de ma route, pour aller chez mon oncle. Mais je ne pouvais pas laisser ma montre dans les mains de l'escamoteur. Je m'avance vers lui. Ma montre, monsieur, c'est dans un instant, mais je veux m'en aller. C'est l'affaire de 5 minutes, mais je n'ai pas une minute à perdre. Tout le cercle murmure et m'invective. Mais avez-vous peur que je ne vous vole votre montre? Ah, vous êtes un drôle. Eh bien, prenez-la dans le gobelet où je l'ai mise. Je mets la main dans le gobelet, j'en tire un gros oignon. Tout le monde rit, tout cramoisit. Je demande encore ma montre et je m'enfuis avec. Mais l'inconnue a disparu. Si elle était restée sur le boulevard, la ligne est droite, je la verrai. Un cabriolet vient de partir. Je le suis, je le poursuis. Il faut avoir du malheur. Le cheval trottait parfaitement. Hors d'haleine, je le devance, mais il n'y avait là-dedans qu'un homme à lunettes bleues. Arthur reçut une lettre de son père, et dans cette lettre, il y avait ce passage. Envoie-moi des nouvelles de ton oncle que l'on disait si mal. Mais je ne te demande pas si tu l'as vu, car ton cœur, nos intérêts, le respect humain, sans compter le conseil que je t'en avais donné, tout en faisait une loi. Oh, mais j'irai demain, quand il pleuvrait les vieilles femmes, s'écria Arthur. 6 semaines après, Arthur arrive à l'arsenal. La maison de son oncle était tendue de noir. On venait de mettre le corps dans le corbillard. Tout le monde montait dans les voitures de deuil. Arthur fut atterré. Cependant, quelques minutes de réflexion lui firent voir qu'il lui arrivait rien que de très ordinaire et tout à fait conforme à la marche naturelle des choses. 3 personnes, dont les figures ne lui étaient pas inconnues, lui firent du geste invitation de monter avec elle dans la dernière voiture. Arthur monta et suivit d'abord à l'église, puis au cimetière sans dire mot. Seulement, il lui venait bien à l'esprit quelques remords de n'avoir pas vu son oncle à son heure suprême. On arriva, après cette cérémonie toujours triste, même pour les indifférents, après qu'on eut descendu le cercueil dans la fosse et qu'on l'eût recouvert de quelques pelletées de terre qui retentirent sourdement sur le sapin, un monsieur, vêtu de noir, s'avança, qui se moucha et d'une voix émue, autant par l'embarras de parler en public que par la douleur, prononça l'éloge du défunt. Cette figure encore n'était pas inconnue à Arthur. Il lui vint dans l'esprit que ce jeune homme, moins étourdi ou plus heureux que lui, était probablement l'héritier de son oncle. Messieurs, dit l'orateur, surtout à propos de la mort, on peut dire que c'est pour celui qui reste que l'absence a le plus d'amertume. L'homme que nous regrettons va occuper dans le ciel la place que lui ont conquise ses vertus, et nous, nous restons ici-bas pour le pleurer. Mais il n'y a pas de doute, pensa Arthur, mon oncle lui a donné sa terre de Bayeux. Personne, continua l'héritier, ne pratiqua mieux ce précepte de l'Évangile, que votre main gauche ignore ce que donne votre main droite. C'est pour cela que les pauvres, ignorant d'où leur sont venus les nombreux bienfaits qu'il a répandus dans sa vie, ne sont pas accourus, ni pour humecter cette terre de leurs larmes. Mais il a aussi la maison de Paris, se dit Arthur. À quelques personnes, ses facultés nouvelles ont paru baissées. C'est que sa vie était finie dans ce monde et qu'il commençait l'enfance d'une autre vie. Oh, je ne donnerai pas 5 sous, dit tout bas Arthur, de ce que mon oncle m'a laissé de ses rentes sur l'état. C'était l'enfant de l'immortalité. Il ne me reste pas même les actions de Canot. On remonta en voiture. Les 3 compagnons d'Arthur parlaient de leurs affaires. Arthur ne parlait pas. Cette scène de mort l'attristait et aussi, à dire vrai, la pensée que le travail de toute sa vie ne suppléerait pas l'héritage qu'il avait perdu par sa faute. Il descendit de voiture et continua sa route à pied. Comme il traversait le boulevard, quelques personnes étaient arrêtées, et qui ne s'est arrêté quelquefois pour moins, à regarder un postillon qui rattachait un trait rompu par ses chevaux. Arthur, machinalement, s'arrêta comme les autres. Et comme il regardait un homme, lui frappa sur l'épaule. Il se retourna, c'était son oncle. Arthur pâlit et fut quelques instants immobile et glacé, puis il sauta au cou de son cher oncle et l'embrassa. Oh, j'aimerais mieux, dit l'oncle, que tu m'embrassasses moins fort et plus souvent. Arthur l'embrassa encore, mais il y avait dans ses mouvements quelque chose de convulsif. Comment, c'est vous dans mes bras, mais c'est impossible. Il n'y a rien de si simple, je vais à Bayeux pour le reste de la belle saison. Mais bon, donc je viens. Oh, de chez moi peut-être, oui. Oh, on enterre ce pauvre Dubois, mon voisin, celui que tu as vu si souvent chez moi. Quoi, ce n'est pas vous? Comment moi? Ben, il y a 4 heures que je vous pleure. L'oncle laissa échapper un éclat de rire. Mais je vais à Bayeux marier ta cousine. Quelle cousine? Mais la fille de la sœur de ta mère, de ma seconde sœur. Elle est chez moi depuis un an. Ah, de ma tante Marthe, précisément. Elle ne connaît pas son prétendu. Mais j'ai rangé ça par lettre. Elle sera très heureuse. Le postillon avait fini, l'oncle monta dans la chaise et dit: Allez, baise la main de ta cousine, que tu n'en verras peut-être jamais, car son mari reste dans ses terres, qu'il fait valoir. Arthur baisa une petite main qui sortit de la chaise sur l'invitation de l'oncle, puis leva les yeux et reconnut le doux visage de l'inconnu au cachemire bleu. Le châle bleu l'enveloppait encore. La chaise partit, et Arthur resta sans rien voir ni rien entendre, jusqu'à ce qu'elle fût perdue dans la brume qui descend vers la fin du jour.